de cette conférence de presse. Nous allons maintenant entrer dans la deuxième phase de cette conférence de presse qui concerne la séance des questions et réponses. Je rappelle encore une fois qu'à Goma, nous avons le Force Commander, le général Cruz, qui pourra répondre à vos éventuelles questions. Vous connaissez la règle, mettez vos téléphones sous mode silence et nous commençons tout de suite par Goma où nous prenons deux questions avant de revenir à Kinshasa. Goma, le micro est à vous. On vous entend pas très bien, Goma.
Parlez-en. Le dernier combat contre ADS et la foi des Saints à Makende, Nadwi et Jericho dans le territoire de Beni, y compris 19 ADS tués et 11 soldats de la foi des Saints.
Oui, veuillez répondre, reprendre votre question, s'il vous plaît, et parler un peu plus fort. Une question, s'il vous plaît. Une question.
Les opérations ne sont pas planifiées conjointement entre les FADC et la MONUSCO.
Avant qu'on réponde à cette question, je voudrais qu'on ramène un peu d'ordre. C'est une question par journaliste pour permettre à tous les autres de poser les questions. Veuillez vous conformer à cette règle, s'il vous plaît. Donc, cette question est adressée à la force. Mon général, est-ce que vous avez des éléments de réponse concernant la préoccupation de notre collègue?
Ok. Bonjour. La question du problème d'ADF au niveau du pays, le problème de l'attaque de l'ADF contre la position de FLDC, il n'y a pas de la confirmation du numéro de morts et de blessés. Les informations initiales ne sont pas le numéro que vous parlez. Nous besoin de savoir de prix pour une définition de le numéro de blessés et de morts dans l'attaque de l'IDF contre les affaires de C. L'autre chose, c'est le plan conjoint de nos opérations, le plan conjoint de nos opérations. Il y a la coopération, il y a la publicitation, il y a le soutien de la MONUSCO dans la FLDC au niveau des peines dans la lutte contre l'ADF. C'est un travail très difficile parce que l'ADF change complètement les modus operandi tout le temps. Et c'est une activité criminelle. C'est difficile de savoir quand le criminel va décider de tuer la victime. Alors, il y a le travail conjoint, il y a le soutien, mais il y a la difficulté, mais il y a des problèmes. Il y a un problème que nous ne savons pas exactement. Quel est l'objectif politique de l'ADF qui a complété un an de crimes contre la population civile à Béni, contre les innocents à Béni. Quel est l'objectif politique? Qui est dernier des crimes absurdes que se parle de l'ADF contre la population civile, les enfants, la femme, les personnes qui travaillent dans les camps? Alors, il y a beaucoup d'interrogations. Mais le travail continue et nous sommes motivés pour continuer à travailler avec la FLDC. Mais malheureusement, ce n'est pas possible de sécuriser tous les peuples dans la ville et dans le camp. Merci beaucoup.
Merci. Nous prenons une autre question à Goma.
Merci. Je m'appelle Gaïs Kouine. Je travaille pour Deutsche Welle de l'Allemagne. J'ai une question pour Kité. Récemment, en septembre, je pense, le gouvernement et la MONUSCO s'est passé l'établier en ce qui concerne l'alimentation des FDLR dans le camp à Kisangani, le camp Bahouma. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement donne l'argent comme prévu ou bien la MONUSCO continue toujours à donner aussi de l'argent?
Oui, cette question est adressée à notre collègue Taz. Taz, vous avez des éléments de réponse?
Oui, donc à l'heure actuelle, c'est une combinaison de nourriture fournie par le MONUSCO et aussi par le gouvernement. Il y a trois camps avec les FDLR et tous les deux, on travaille ensemble pour assurer l'alimentation. À Kisangani, c'est surtout le gouvernement qui a pris en charge, mais nous augmentons les rations. Et à Renoukou, Kanyabayonga, c'est surtout le MONUSCO qui continue. Dans l'avenir, on va continuer ça de manière indéfinie. On travaille avec le gouvernement pour trouver une solution plus durable pour cette groupe.
Merci et retour tout de suite ici à Kinshasa où pour être plus équitable nous prendrons trois questions parce qu'il y en a eu trois à Goma. Nous commençons tout de suite par la gauche. Oui, passez le micro là à ma gauche. Donnez le micro, présentez-vous.
Oui, merci Monsieur Bass, c'est Théodore Ngandou pour les comptes de Télé7. J'ai la question en rapport avec le dialogue politique. Tout récemment, M. Étienne Tshisekedi a saisi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour qu'il s'implique en désignant de manière urgente un facilitateur, neutre, facilitateur international pour ces dialogues. Et plusieurs observateurs constatent que le processus électoral est bloqué et que le dialogue devient inévitable pour permettre l'aboutissement heureux de ces processus. Et la question que je vais poser, c'est de savoir quelle suite Ban Ki-moon peut réserver à cette sollicitation des leaders de paix. Et hier encore, plusieurs organisations du pays ont lancé un appel pour la convocation urgente de ces dialogues. Au cas contraire, au-delà du novembre, ça devient impossible d'organiser ces dialogues. Alors, quelle suite l'ONU, aujourd'hui, peut réserver à cette situation du dialogue qui doit être convoquée de manière urgente, selon certains observateurs?
Merci, mais permettez-moi de vous décevoir pour lui dire que je n'ai pas une boule de cristal pour savoir ce que M. Ban Ki-moon dira à la suite de cette requête ou de cette correspondance adressée par M. Étienne Tshisekedi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'on reste dans le cadre. Le cadre, il est immuable. La MONUSCO, aussi bien que les autres partenaires de la RDC, s'activent tous les jours pour appeler ou interpeller les acteurs politiques afin que un climat ou un espace politique puisse être créé et permettre à tout un chacun d'exprimer ou de mettre sur la table les points de divergence qui devraient être aplanis parce que, comme vous le savez, pour le bien du peuple congolais, il faudra bien que les gens arrivent à une solution concertée, une solution partagée pour que dans le futur ou les élections qui sont prévues dans le futur puissent se dérouler de manière transparente, crédible et selon le calendrier électoral défini par la Constitution. Évidemment, cette préoccupation aujourd'hui nous interpelle aussi au plus haut point, parce que dans notre mandat, il est clairement stipulé que nous avons aussi cette responsabilité de conduire les bons offices, une fois que les parties prenantes nous interpelleraient sur ce sujet-là, mais nous restons disposés et notre détermination à aider la RDC à aller vers des élections futures paisibles, transparentes et apaisées et sans faille. Et c'est à cela que nous nous attelons, en restant en contact avec tous les acteurs politiques, les membres du gouvernement, l'opposition, mais aussi avec tous les amis et acteurs politiques qui s'échinent à ramener toutes les parties sur une même table et à poursuivre la discussion, parce que la solution est au bout de la discussion, non justement dans les déchirements. Vous avez raison, le processus est pour le moment un peu bloqué, si on peut l'appeler ainsi, mais toutes les énergies sont mises à contribution pour qu'un dialogue puisse se passer. Vous avez raison, la seule voie, c'est le dialogue pour le bien des populations congolaises, qui en ont besoin d'ailleurs. Oui, une deuxième question, ici à droite, nous restons toujours à Kinshasa. Oui, passez le micro.
Merci, moi c'est Flavien Msens pour le compte des planètes de télévision. Ma préoccupation, c'est sur le plan humanitaire. Je reviens sur la fermeture du bureau de ACR dans la province du Haut-Katanga et dans le territoire de Dilolo. C'est pour dire que la ACR a constaté qu'il y a zéro réfugié, zéro déplacé, zéro opération ACR. Ou bien, il y a d'autres raisons que l'ACR a fermé ses bureaux. Merci.
Oui, merci. Donc, voilà, le ACR est là pour répondre. Non, vous n'avez pas besoin de l'appui.
Merci pour la question. Je suis Andreas Kirchhoff, porte-parole du HCR à Kinshasa. En fait, la fermeture des bureaux du HCR, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On fait ça assez souvent. On doit s'adapter à une situation humanitaire qui est très complexe dans ce pays, aussi avec l'arrivée de plus de 100 000 réfugiés centrafricains dans le nord, et avec la crise burundaise qui nous a amené à ouvrir un camp à Lusenda, au sud Kivu. Maintenant, il est vrai qu'il y a aussi des réfugiés à Katanga. Ils sont au nombre de presque 5 000. Mais ces réfugiés, ils, pour la plupart, ils sont intégrés, donc ils vivent avec la population hôte. Ils ne reçoivent pas d'assistance humanitaire pour la plupart. Et d'ailleurs, il y a un bureau de la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, qui reste sur place à Lubumbashi et qui sera aussi là pour les réfugiés, pour assurer leur protection. Merci.
Merci à M. Andreas Kirchhoff qui, je le rappelle, est le chargé de communication du HCR en République démocratique du Congo. Nous restons toujours à Kinshasa pour une troisième question, mais je suis déçu de n'avoir pas encore vu une femme prendre la parole. Mesdames, oui, une dame ? Il n'y en a pas. Bon, passez le micro à gauche.
Alain Mouzi pour la radio ECC. À Rutshuru, la prison souffre d'une carence alimentaire qui cause des cas d'évasion. Est-ce que les Nations Unies comptent pallier à cette situation?
Oui. Oui. Et quel pays?
On va se renseigner sur cette information qui nous a échappé et on reviendra vers vous.
Oui, en fait, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur votre préoccupation, mais comme l'a dit Florence, nous reviendrons vers vous. Direction Goma tout de suite pour prendre deux autres questions, mais je rappelle que nous prenons deux questions, pas trois. Oui, Goma.
Goma, deux dames, première dame.
Tout à l'heure, vous avez évoqué ces attaques, par exemple, les 3 hectares de l'air à 25 km de Kichanga. Je vois vers Kaé et Mungot, il y a assez de populations déplacées dans le massif. Et pourtant, quand on va sur ces axes, on rencontre des bataillons indiens, des Sud-Africains. Comment est-ce que des attaques peuvent s'expliquer? Merci.
Oui, Général Cruz. Merci beaucoup.
Le problème de l'attaque de FDLR, il y a FDLR dans la région de Kichanga, de Kalenge et de d'autres Kachuga. Et il y a des attaques de FDLR contre la FRDC. Parce que moi, les attaques sont contre la FRDC. Et il y a, nous avons Nous avons quelques troupes là-bas aussi, Tachouga, Miriki. Hein. Mais il y a ce moment où ça. Vous savez très bien qu'il y a quelques difficultés dans le travail conjoint entre nous pour la FRDC. Alors, il n'y a pas de, une réponse pour coordonner dans l'action criminelle de FDLR. C'est possible. Il y a aussi, au niveau des massifs, il y a d'autres groupes Maïmaï. Qui sont associés ou pas dans le FDLR. Alors, c'est une situation très difficile. Je souhaite que le travail conjoint va recommencer pour avoir une réponse un peu fière à les attaques criminelles de l'FDLR.
Merci, Général Cruz. Merci, nous prenons une deuxième question à Goma.
Oui, merci, c'est Gilles Lamour, pour le compte de Citizen. Ma question, je vais m'adresser à Andreas. Il y a environ 3 semaines, si je ne m'abuse, lors de cette même conférence de presse, un des représentants du HCR a connaissé que le HCR justement avait des difficultés quant à l'identification et l'enregistrement des réfugiés centrafricains présents sur le sol congolais. J'aimerais savoir si le HCR est toujours confronté à ces difficultés-là ou si, d'une certaine manière, la situation s'est améliorée là.
Concernant les réfugiés centrafricains, il faut peut-être distinguer entre deux aspects.
Pardon. Concernant les réfugiés centrafricains, il faut voir deux facteurs. Une, il y a des nouveaux arrivés des réfugiés centrafricains dans des zones assez reculées. Et on reçoit des informations, par exemple, de Ngapo Rive ou de Pando, qu'il y aurait des chiffres assez élevés de nouveaux arrivés. On est en train de vérifier cela. Mais ces populations, ils ne sont pas très accessibles aussi pour leur fournir une aide humanitaire ou pour leur enregistrer. Deuxième, il y a des réfugiés qui arrivent face à Bangui. Ça continue avec peut-être 50 personnes par jour. Et le souci était pas vraiment qu'on ne peut pas les enregistrer, mais qu'on a de moins en moins de moyens pour leur fournir une aide humanitaire. On a encore ces soucis-là. Il y a des réfugiés qui restent dans le centre de transit parce qu'on n'a pas suffisamment des places dans les camps de Molé. Mais on est en train, avec des donateurs, de voir si on peut quand même trouver une solution pour cette situation. Et pour le moment, on continue à soutenir ces personnes même qui sont dans le centre de transit.
Merci Andreas. Retour ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions. Oui, là sur la droite, passez le micro. Je rappelle aux collègues de Kinshasa qu'il n'y a pas de conférence parallèle et un peu de silence ferait du bien à tout le monde. Oui, posez votre question s'il vous plaît.
Merci. Ma question s'adresse au commandant en force de la MONUSCO. Il semblerait, j'utilise bien le conditionnel, il semblerait que des ex-rebelles M23 serait basé à l'Ouganda, serait en train de rejoindre le groupe ADEF afin de stabiliser la région du Bénin. Vous qui êtes maître du terrain de ce côté-là, dans la partie orientale du pays, qu'avez-vous observé exactement?
Oui, Général Cruz.
Ah, ok, merci beaucoup. Sur le M23, les combattants de M23, Uganda, Rwanda, il y a rumeurs, il y a des informations sur le temps qui vont renforcer l'ADF, travailler avec le FNPI ou attaquer ici là-bas, mais il n'y a pas de confirmation. Il n'y a pas de confirmation sur la réelle activité des combattants qui sont à Ouganda. S'il y a l'information correcte, et nous savons
de la présence d'un patronat, nous allons faire la même chose que nous faisons. Merci beaucoup.
Oui, merci. Donc, prenons une autre question à Kinshasa. Oui, une dame là, donnez le micro, s'il vous plaît. Oui. Donnez rapidement le micro, s'il vous plaît.
Laetitia Massella, pour le compte de la RTNC2, je pose ma question à l'équipe pays. Nous tendons lentement vers la journée internationale de lutte contre le sida le 1er décembre. À ces jours, comment se présente le tableau de bord de la lutte en RDC? Merci.
Oui, Florence.
En effet, le 1er décembre, le monde entier célébrera la lutte contre le sida. Comme vous le savez, la lutte contre le VIH-SIDA est l'un des axes d'intervention du plan stratégique de développement entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Le taux de prévalence du SIDA a diminué ces dernières années grâce aux interventions à la fois des Nations Unies et de leurs partenaires, distribution de préservatifs, campagne de sensibilisation, mais aussi mise sous traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH. Donc il y a les résultats sont encourageant. Il y a encore des progrès à faire, mais les résultats sont encourageants. Évidemment, autour du 1er décembre, dans ce forum, cette conférence de presse, nous ne manquerons pas de revenir avec des informations plus détaillées et avec le représentant d'ONU SIDA qui pourra vous dresser un tableau plus complet.
Merci. Merci Florence. Donc nous prenons une autre question ici. Une dame là-bas, donnez le micro. Oui.
Merci beaucoup, Bercy Newsy, Numérica Télévision. C'est par rapport au projet de loi de finances que le chef du gouvernement a présenté avant-hier au Parlement. Il a donné 537,8 milliards au financement des élections. Et il a dit ceci, 500 milliards, ça sera de sources propres. Et 37,8 milliards, ça sera la contribution extérieure. La MONUSCO, en tant qu'organe qui accompagne la RDC dans les élections, quelle lecture vous donneriez-vous à ces chiffres?
Florence, vous avez des informations?
Je n'ai pas d'informations précises. J'ai lu cette information comme vous. Il est clair que la communauté internationale, comme ça avait été le cas lors des deux dernières grandes élections, lorsque toutes les conditions auront été réunies pour garantir un scrutin apaisé et transparent, la communauté internationale est disposée à apporter une aide financière pour l'organisation des élections, les grands bailleurs principaux que sont l'Union européenne, etc. Mais à ce jour, il n'y a pas d'engagement puisque on est toujours en attente d'un calendrier.
Oui, peut-être juste pour rappeler que, évidemment, la communauté internationale a toujours exprimé sa détermination à accompagner ce processus-là. Je pense qu'il faut d'abord se féliciter qu'il y ait des indicateurs qui aient été livrés à la connaissance du public sur les fonds qui sont mobilisés déjà par le gouvernement. Ça permet à tous les acteurs qui s'activent autour de l'organisation des élections de savoir exactement ce qui reste à faire en termes de contribution des partenaires pour accompagner ce processus-là et permettre une tenue des élections dans des délais qui seront ultérieurement définis par les autorités de ce pays-là. Donc nous partons tout de suite à Goma pour prendre deux questions si nous avons le temps. Goma, très rapidement, deux questions brèves, précises.
Merci. Je suis Albert Cambalé pour l'agence France Presse. Ma question s'adresse aux forces commandeurs. Les populations d'ici des territoires de Loubero souffrent 1. De l'insécurité numérique et Lofou, 2. Sur le trafic routier Rutshuru-Kanyabayonga. Qu'est-ce que vous entendez pour soulager tant soit fait les la souffrance de ces populations en escortant les véhicules de Kanyabayonga à Kiwanja, comme vous le faites, entre Mungazi et Kivua pour les populations qui vont au marché? Merci.
Oui, Goma.
Merci beaucoup. Le problème de la sécurité dans la langue de la route qui pompe et Rutshuru, Rindji, c'est un problème. Il y a le problème des groupes armés, il y a le problème de bandits, le problème de sécurité publique. Il y a des problèmes là-bas. Ce n'est pas seulement du groupe armé. Je pense que le groupe armé et le bandit sont pour la même chose. Il y avait une réunion de la force avec la police nationale. Il y a une nécessité d'une coordination de MONUSCO, du parc national, du PNC, du FDRDC pour la sécurité à long de la route. Il y a beaucoup de bandits, beaucoup de problèmes, des crimes. Et il n'y a pas une réunion qui soit nécessaire de continuer de travailler ensemble. Mais les bandits attaquent les motos, les véhicules, tant que moment. Et le problème de la sécurité au niveau de l'Opère, le Wolfo, et à l'Ouest, le Samambo, la région là-bas, c'est un problème de la paix. Il y a le groupe d'armée, il y a Conchima, il y a la présence de FDLR. Le principal problème, c'est la présence de FDLR. FDLR, il y a beaucoup d'expansions de FDLR, et j'ai déjà parlé ici, qu'il y a une coordination. Il y a une coordination entre MONUSCO et la FDLC. Mais il n'y a pas une action conjointe. Il y a nécessité d'un environnement politique différent pour considérer le travail conjoint. C'est le problème, je pense, qui va améliorer quand il y a le travail ensemble du MONUSCO avec la FDLC.
Merci. Juste pour peut-être rajouter un mot sur ce que vient de dire le général Cruz. Effectivement, beaucoup de banditisme ont été répertoriés sur ces deux axes-là, ce qui a d'ailleurs provoqué des manifestations à Loubero pour protester contre cette insécurité. Je voudrais tout simplement rajouter qu'il ne faut pas oublier que beaucoup a été fait dans le cadre de la sécurisation des populations civiles. Certes, il est vrai, nous le reconnaissons, qu'il y a de temps en temps des incidents sporadiques qui sont rapportés ça et là du fait de bandits ou du fait des groupes FDLR. Mais il faudra encore une fois retenir le message du Force Commander qui consiste à la reprise effective et sans tarder de la coopération militaire entre la force de la MONUSCO et les FRDC. Mais aussi, je rappelle au passage que n'oublions jamais, c'est vrai qu'il faut toujours interpeller la MONUSCO, c'est vrai que cet exercice de lapidation sur la MONUSCO se justifie, mais n'oubliez pas que la responsabilité première de la sécurisation du territoire congolais revient aux forces de défense et de sécurité, et nous n'avons jamais ménagé nos efforts pour les appuyer dans ce cadre-là. Donc vivement que cette coopération reprenne afin que nous puissions maîtriser la situation sécuritaire et neutraliser ces groupes armés. Donc je reviens à Kinshasa tout de suite pour prendre une question, parce que nous sommes presque au terme de cette conférence de presse. Une question à Kinshasa. Une dame, c'est dommage, Kinshasa n'est pas au rendez-vous aujourd'hui.
Il y en a une là.
Ah tiens, mais venez madame. Voilà, au moins sauvez les meubles.
Je suis Patricia Panzo de Biwan Télévision. Je suis sur la radio Capi que le 1-23 accuse le gouvernement de mauvaise foi dans la mise en œuvre des engagements de Nairobi. Ils disent que juste sur le 11 points, il y a juste 2 points qui ont été respectés et ajoutent qu'ils ne vont pas rester liés à ces engagements-là puisque le gouvernement ne respecte pas cela. J'aimerais avoir le point de vue de la MONUSCO par rapport à ça.
Oui, peut-être que Taz Grayling me complétera plus tard, mais je voudrais d'abord juste exprimer d'abord premièrement notre surprise, je dirais même à la limite notre indignation face à la sortie de ce communiqué du M23 qui exprime d'une manière ou d'une autre son refus de poursuivre le processus ou en tout cas qui exprime de manière très forte justement des points sur lesquels il n'est pas d'accord. Mais il faudra tout simplement rappeler que pour les uns et pour les autres, il n'y a qu'un seul cadre qui existe, c'est l'accord cadre qui a été signé à Nairobi et pour lequel d'ailleurs il y a eu les Nations Unies, l'Union Africaine, la SADC, la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs qui étaient garants de cet accord. Et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger tous les efforts qui ont été entrepris jusqu'ici et qui continue d'ailleurs d'être mené par tous les acteurs. Récemment, il y a eu la réunion à Luanda de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui a rappelé encore une fois avec force que tout le monde devrait rester dans le cadre et respecter les engagements. Donc, c'est juste pour vous dire, madame, que oui, nous avons pris acte des déclarations du M23, mais je pense aussi que vous avez oublié de faire mention justement de la réponse du gouvernement congolais à travers le mécanisme de suivi de l'accord cadre. Je pense que M. François Mwamba a eu une réaction à ce sujet-là, mais sachez que l'un dans l'autre, toutes les énergies sont déployées, sont mises en synergie pour que le problème du rapatriement du M23 soit très bientôt une réalité. Je ne sais pas si ma collègue Taz Grayling a quelque chose à rajouter de l'autre côté.
Juste pour ajouter.
Oui, allez-y.
La collaboration entre l'Ouganda, le RDC et le Rwanda sur la question du M23. En plus, bientôt, dans le programme national du DDR congolais, d'ici, en fait, c'est vers le 8 novembre, la phase de formation professionnelle va débuter. Et ça inclut les ex-M23 qui sont déjà reportés sur place. Donc on fait appel à tous les ex-M23 au Rwanda et au Uganda de bien regarder ce programme. C'est réel, c'est concret. Et d'ici 4 mois, il y aura les retournées dans l'Est, dans le lieu de leur choix, y compris les ex-M23. Donc oui, on est surpris par ce communiqué. Mais l'ONU et aussi les gouvernements régionaux on travaille de manière très focalisée sur les déclarations de Nairobi et le repartiment de tout ce qui est ex-M23 retour ici au Congo.
Merci à Taz. C'est sur cette note d'espoir d'un retour rapide des ex-M23 au Congo que nous mettons un terme à cette conférence de presse. Merci à ceux qui nous ont suivis sur la toile. Merci à ceux qui ont fait le déplacement. À mercredi prochain et bonne fin de semaine.